Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Bon jeudi. Écoutez, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Avec nos postes de gouverneur général, les histoires se suivent et ne se ressemblent pas ou se ressemblent beaucoup. On parle bien sûr des dépenses somptueuses de Mary Simon, gouverneur général du Canada, et son entourage lors d'un voyage au Moyen-Orient pour 100 000 $ de frais de bouche, disons ça comme ça, dans les différents vols d'avion. Je pense qu'il y a des gens à qui on dit « on va te nommer ». Tu vas être représentant de la reine au Canada, puis ils n'entendent pas les mots « représentant de ». Ils entendent juste le mot « reine ». Puis ils disent « ben, je viens d'être nommée reine du Canada. En ouin donc, on part sur le party. Bon, on envoie ça sur la carte de crédit des contribuables. » Non, non, non. Vous n'êtes pas la reine. Vous êtes représentant de la reine. C'est pas la même chose. Quand je vois ces dépenses-là, quand je vois à quel point cette fonction-là monte à la tête des gens qui l'occupent, je ne peux que lancer un dégoûté. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Vous le connaissez bien sûr comme chroniqueur ici à Cube Radio dans plusieurs émissions, l'analyste en politique publique Patrick Derry, mais vous avez remarqué aussi quand il y a des animateurs qui sont ailleurs, ben c'est Patrick Derry qui prend la relève, et ben c'est exactement ce qu'il va faire cet été. Une émission d'été rien qu'à lui. Patrick Derry, bonjour.
Allô Sophie.
Écoute, c'est donc notre dernière chronique ensemble pour la saison, parce que moi, ma saison se termine demain, et toi, tu commences la semaine prochaine. À quelle heure tu vas être et de quoi tu vas nous parler cet été, Patrick?
Ça va être de 3h à 5h30, puis, écoute, moi, je vais être ici, je vais être dans l'actualité, dans l'analyse, dans l'opinion aussi. Mais je vais continuer un peu ce que je fais, c'est-à-dire de regarder les choses qui sont dans les affaires publiques, ce qui est dans l'actualité, mais toujours avec un angle qui est le mien, là, c'est d'essayer d'aller chercher là, un regard, bon, parfois sur les données, de sortir un peu du discours des fois qui est très très politique, très partisan, pour regarder ça un angle un peu plus large. Puis bon, aussi, c'est l'été, fait qu'on va rendre ça de partie. Parfois, ça va être plus léger. On va essayer de rendre ça intéressant aussi et digestible. Donc, j'ai bien hâte. Écoute, c'est 2h30 chaque jour. Là, ça donne l'occasion de faire bien des choses.
Tu as dit digestif, mais je pense que ce sera plutôt apéritif parce que tu vas vraiment être à l'heure de l'apéro, Patrick. Parle-moi un peu des chroniqueurs. De qui tu vas t'entourer?
Oui, il va y avoir Emmanuel Latraverse qui va être là. Il va être donc bien connu, évidemment, là, dans le Journal de Montréal, à TVA, LCN, commentatrice politique expérimentée. Guillaume Lavoie, anciennement impliqué dans la scène municipale à Montréal, qui est un gars assez calé aussi là, en contenu justement sur les politiques, des idées intéressantes. On va voir Jérôme Lucier, qui a été chroniqueur notamment à Voir. Et d'autres à confirmer et à nommer aussi. Mais non, écoute, ça va être donc certains visages, certaines voix connues, je devrais dire, et d'autres qui sont nouvelles, qui, comme moi, là, vont être là pendant l'été là, pour apporter un angle différent et aussi ben, vous permettre à toi, par exemple, Richard Rideau, de prendre des vacances pendant tout l'été.
Voilà, et Jérôme Lucier, je l'ai eu moi comme chroniqueur quand j'avais une émission à Vox et à ma TV, et écoute, je pense que tu vas passer un bel été.
Oui,
puis
oui,
c'est
non,
fun aussi.
Il était intéressant.
Différentes générations aussi, c'est ça qui est intéressant de confronter les idées des différentes générations. Ben écoute, alors je te dis le mot de Cambronne pour la semaine prochaine, mais pour l'instant, il te reste encore une chronique tu me dois encore une chronique, donc pour l'instant.
C'est ça mes dettes.
Voilà, c'est ça, paye ta dette à la société Cube. Écoute, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ça? Quand tu regardes les chiffres, ce qui est vraiment ta force, une hausse des cas de COVID-19, une hausse de 18% sur une semaine. Habituellement, à l'approche de l'été, on se dit, ah, ben, c'est beaucoup plus tranquille l'été, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que ça te fait capoter, ça te fait paniquer ou pas?
Ben moi, ce qui me fait... Tu sais, je suis pas quelqu'un naturellement très stressé et très inquiet, là, même si des gens qui m'ont suivi depuis 2 ans, ça peut donner l'impression du contraire, là, mais tu sais, je m'inquiète un peu plus quand je vois les chiffres aller pas du bon bord. D'ailleurs, j'avais commencé à couvrir la COVID parce que je connaissais bien les grands déterminants du système de santé, puis si c'est sérieux, il n'y avait pas de façon que ça aille bien au Québec, puis bien, évidemment, c'est ça qui s'est passé. Mais non, effectivement, c'est inquiétant. C'est sûr que c'est 3 ans, c'est pas encore un grand échantillon statistique, mais de voir les cas monter alors que les 2 dernières années, ça descendait, c'est quelque chose qui est inhabituel. C'est pas juste au Québec non plus. Il y a des hausses de cas dans les Amériques de façon générale. Il y a une hausse de cas dans l'Est de la Méditerranée, dans l'Asie du Sud-Est, un de mes amis qui est en France me disait ce matin justement que les cas ont doublé en 2 semaines. On est passé autour de, je sais pas moi, 17-18 000 à 36 000 cas rapportés en l'espace de 2 semaines par jour. Fait que c'est tous des indicateurs qui vont dans le mauvais sens. Puis en plus, c'est des cas rapportés parce qu'on sait, en tout cas notamment au Québec, que le dépistage est beaucoup moins serré qu'il a déjà été. Donc, c'est une sous-évaluation. Il y a des facteurs pour ça, évidemment. On a des nouveaux variants, là, notamment BA4, BA5, BA2.12.1 qui sont des sous-variants de Micron. Ouais, c'est ça, on commence à s'en parler
On a l'impression que c'est ton numéro de téléphone.
Ouais, ben il y a toute une soulignée, là, mais tu sais, parce que c'est des sous-variants de Micron, puis la caractéristique de Micron, c'est qu'il échappe à l'immunité vaccinale à cause de ses mutations. Il échappe aussi à l'immunité naturelle, ce qui se voyait moins avant, c'est-à-dire les chances d'être... Il n'y a pas vraiment de protection significative qui est conférée par Micron. En tout cas, s'il y en a une, elle ne dure pas longtemps, puis est moins durable que pour les vaccins. Toutes ces facteurs-là mis ensemble, en plus de ça, Omicron, il est beaucoup plus contagieux. Puis les nouvelles souches, chaque fois qu'on voit une nouvelle souche qui prend le dessus sur l'autre, c'est pas compliqué parce qu'elle est plus contagieuse. Et oui. Là, on est rendu dans des facteurs de contagion qui sont 10 fois plus contagieux et plus que l'original. 10 fois plus, là, c'est un ordre de magnitude. Là, c'est immense. Là, c'est 900% de plus. Là, c'est vraiment un auteur de grandeur. Et là, c'est ça. Le fait qu'on soit un peu plus dehors, on n'est pas complètement dehors, mais on est plus dehors, ça semble pas faire de différence. Et là, évidemment, je ne suis pas en train d'annoncer que ça va être 100 fois plus de cas dans 3 semaines. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer à l'avance, mais les renversements de tendance, hein, quand c'est plus qu'une journée qui monte, là, puis qu'on voit que c'est sur une semaine, puis que c'est durable, puis là, que ça commence à sembler prendre de la vitesse, c'est à peu près jamais retombé.
Ouais, c'est ça. C'est... Bon, on s'entend que c'est pas des bonnes nouvelles. En même temps, bon, vu que les... Écoute, je te raconte une anecdote, là, parce que ça illustre quand même la situation. Mon frère qui habite en France vient ici à Montréal pour voir ma mère, qui est très âgée, pour aussi son travail, parce qu'il y a une succursale de son entreprise qu'il a fondée, qui est établie ici au Québec. Il arrive, il est là pour une période de 10 jours, il pogne la COVID, puis là, il est obligé de s'isoler à la campagne dans les cantons de l'Est.
Ouais.
Donc, il peut pas voir ma mère, il peut pas faire ses affaires. Je veux dire, on prend pour acquis que, bon, ben, c'est correct, maintenant, elle est là et elle continue à circuler énormément. Écoute, Trudeau l'a en ce moment, Justin Trudeau, donc c'est vraiment que ça se propage pas mal quand même. Et ça nous amène quand même à la question, Patrick, parce que depuis le début, toi, t'as vraiment été de ceux qui ont dit l'aération. C'était comme vraiment un disque rayé, et avec raison. Comment ça se fait que c'est pas encore réglé, cette affaire-là?
Écoute, moi, ça m'a beaucoup amené à poser des questions plus larges sur la capacité d'agir de nos pouvoirs publics, puis tu sais, de décourager un peu facilement. tu sais, il y a vraiment pas longtemps, là, pendant la vague Omicron, pendant la première encore, même au début de la deuxième, on entendait encore parler du lavage de mains par la santé publique, alors qu'on sait que ça donne à rien. C'est ça. T'sais, pourquoi l'aération, c'est si important, là, puis en plus, les gens commencent à être mêlés à force d'avoir des messages un petit peu discordants, c'est que c'est simple. Dehors, de la contamination, il y en a à peu près pas. T'sais, les études parlent de entre 1/100 et 1/10 des cas. Donc, c'est vraiment très, très peu. Là, puis c'est des estimations, mais tu sais, on le sait qu'il n'y en a pas dehors. Donc, si tu veux plus avoir de contamination, tu prends l'air de l'extérieur, puis ces conditions qu'on a, puis on les ramène à l'intérieur. Des fois, c'est facile, on peut ouvrir les fenêtres, des fois, c'est les moins. Il faut mettre des purificateurs. Et c'est d'autant plus important que la vaccination contre la COVID, à ce stade-ci, on le voit, puis peut-être qu'on va avoir des surprises. Il y a des bonnes nouvelles quand même. Par exemple, les vaccins pour les enfants de 4 ans et moins vont être autorisés dans les prochains jours aux États-Unis. Je rappelle, c'est sécuritaire. Là. C'est le point des essais cliniques, c'est de montrer que même s'il n'y a pas beaucoup de risques chez les enfants, il y a quand même 442 morts chez des enfants de 4 ans et moins aux États-Unis. Là, c'est pas rien. Là. Puis des dizaines de milliers d'hospitalisations, ben avec le vaccin, il n'y en a pas. C'est de la fièvre pendant une journée. Puis, fait que on sait que le vaccin, ceci dit, c'est avec Omicron, ça a complètement changé la donne. Puis le vaccin qui est extrêmement efficace contre Delta, pas juste contre les hospitalisations, mais même contre les infections, il l'est beaucoup moins contre les infections avec Omicron. Et donc, on est toujours un petit peu en retard jusqu'à temps qu'on développe peut-être un super vaccin. Puis s'il y en a en développement, ça se peut. Mais d'ici là, on ne peut pas compter sur le vaccin. Et une chose est sûre, c'est que le virus continue à évoluer. C'est pas comme la grippe. La grippe, c'est une fois par année qui évolue. La COVID-19 évolue à une vitesse fulgurante et évolue toujours dans le sens des plus contagieux et on le sait maintenant pas moins dangereux. Donc, c'est pas impossible qu'on se ramasse encore avec d'autres variants plus contagieux cet automne, même, tu sais, plus mortels.
Patrick. On va commencer par maintenant là. Si tu commences à me parler de l'automne là, je vais déprimer trop là. Je vais trop déprimer. Bon, donc je t'arrête là. Juste parce que j'ai envie, tu vois, il reste juste une journée à l'animation, j'ai le goût de tu sais de prendre une petite pause, d'être relax, tu sais, d'être tranquille ou bilou pour l'été. Donc je veux pas que tu me donnes trop de mauvaises nouvelles, juste assez pour pas que je sois non plus complètement hors de contact avec la réalité. Mais parle-moi pas de l'automne tout de suite parce que comme disait l'autre, ça peut pas être encore l'hiver, on a même pas eu d'été. Alors on va se garder une petite gêne là-dessus. Écoute, je veux tu voulais revenir sur le fameux plan santé, la réforme proposée par la sous-ministre Dominique Savoie. Ça a été déposé hier. Moi, la première ligne de ta présentation, quand je lis ajout d'une centaine de cadres intermédiaires, je me dis attends deux secondes là. On est en train de rajouter du monde au lieu d'en enlever.
Ouais, mais des fois, c'est parce que ça prend quand même des gestionnaires sur place pour être capable de prendre des décisions, tu sais. Et là, c'est parce que pour rappeler la réforme Barrette. La réforme Barrette, ça finalement, on a coupé dans les cadres et ça fait en sorte, l'effet net de la réforme, en gros, là, parce que c'est le ministère qui micro-gérait l'ensemble du système, là, via les CIS et les CIUS, là. Puis, finalement, ça a donné ce que ça a donné. C'est-à-dire, c'est un système qui était peu lent à réagir. L'initiative était pas récompensée. Puis des fois, de toute façon, il y avait personne sur le terrain pour décider. C'est dans des CHSLD, là, qui sont quand même des grosses installations, des CHSLD qui ont plus de 100 résidents sur place, donc qui ont beaucoup d'employés aussi. Tu n'avais pas de gestionnaire local. Fait que tu avais des cas stupides où personne ne savait où étaient les clés pour débarrer une armoire où il y avait de l'équipement de protection, puis des anecdotes comme ça, il y en a eu. Fait que donc, c'est un bon diagnostic, ça a pris du temps à arriver, mais c'est de dire oui, on va rajouter des gestionnaires sur le top. Mais c'est pas sur le terrain. Mais c'est pas les aspects les plus intéressants de la réforme, mais c'est quand même important. Moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant encore, c'est que c'est un rapport qui a été déposé hier par la sous-ministre de la Santé, Dominique Savoie. Donc, c'est un document gouvernemental. Et une des recommandations, c'est de sortir certaines activités du ministère de la Santé. Le principe général étant que le ministère s'éloigne des opérations pour se concentrer sur son rôle de gestionnaire. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est arrêter au ministère de dire comment ça doit se passer, puis de donner des autorisations, là, c'est dans le détail, là, sauf dans les établissements. les installations, mais aller sur un rôle macro, c'est-à-dire tu établis les politiques, tu détermines des cibles, des objectifs, des résultats, tu évalues si c'est atteint. Écoute, bon, c'est vraiment étonnant, hein, c'est parce que principalement...
Pourquoi c'est étonnant? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Bon, mais on est rendu que quand le gouvernement fait ce qu'il faut faire, ça étonne Patrick Derry.
Non, mais écoute, non, puis je le dis sans cynisme parce que, tu sais, il y a un rapport de la commissaire à la santé aussi, Mme Castonguay, qui disait à peu près ces choses-là. Et c'est ce qui distingue Christian Dubé, qui est quand même un gestionnaire d'expérience et qui n'a pas ce réflexe de micro-gestion que beaucoup de politiciens ont, incluant le premier ministre qui veut décider pour bien des choses, là. C'est de dire, on a un rôle macro, on détermine les conditions, les politiques, les orientations, la réglementation, mais après ça, on suit si ça fonctionne. C'est ça le rôle d'un ministère. Et on semble vouloir aller là-dedans et on le dit dans un document du ministère. Évidemment, pour l'instant, c'est des intentions, mais tu sais, ça fait quelques fois que le signal est envoyé. Écoute, tu sais, dans les choses qu'on enlèverait au ministère, là, bon, les grands projets puis le parc immobilier, les bonnes pratiques cliniques, ça veut dire que le ministère ne dit plus comment ça doit se passer à l'hôpital. Tu sais, ça, c'est quand même étonnant. On a vu comment la santé publique était centralisée.
Trop centralisée, bien sûr. Ouais, on a parlé quasiment à chaque fois, toi et moi.
Oui, c'est quoi, ça c'est fou, mais là, ça va être... Non, c'est correct. Montréal, organisez-vous Montréal, faites comme vous voulez, on ne devrait pas vous dire quoi faire. L'évaluation et le suivi de la performance, qu'on veut retirer ça au ministère, mais surtout qu'on en parle. La satisfaction des usagers, écoute, j'en revenais pas en lisant ça. Il est question de satisfaction des usagers. On veut faire des suivis, même des suivis en continu sur la qualité des soins. Et là, ça a l'air...
C'est un peu la base.
Ben, tu sais, oui, mais sauf que, tu sais, ici, ça a l'air de quelque chose de qui vient d'une autre planète, là. Mais t'as d'autres systèmes de santé où ça se fait de façon normale et courante. En fait, c'est demandé. Je pense à la Suède, par exemple, qui exige que ça soit fait une fois par année. Les hôpitaux le font, puis t'as même des hôpitaux qui trouvent que c'est pas assez une fois par année, puis qui le font en continu. Fait que c'est juste des bonnes pratiques normales que toute entreprise qui voudrait garder une clientèle ferait, mais ces incitations-là sont pas là au gouvernement. Mais là, le gouvernement, ben non, on va le faire. Fait que, écoute, moi, évidemment, j'ai hâte de voir dans le concret, tu sais, on n'ouvrira pas le champagne ce matin, puis, tu sais, ça va être difficile pour plusieurs années encore, mais au moins, tu sais, si on arrête de s'enfoncer, ça va déjà être une bonne nouvelle.
Alors, tu dis, on n'ouvrira pas le champagne aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut remplacer cette expression-là par dire, on fera pas un Mary Simon aujourd'hui, parce que je pense que le champagne a pas mal coulé à flot sur son vol pour aller en voyage au Moyen-Orient. Elle coûte 100 000 $ de traiteur. Écoute, Patrick, je te souhaite un très bel été. Beaucoup de plaisir avec les auditeurs et les auditrices. Et puis, ben, on se souhaite un bel été.
Ben merci beaucoup, Sophie. Bon été à toi aussi. C'était un plaisir, cette saison. Puis, écoute, on se retrouve quelque part au bout de ça. Puis, on va espérer de façon positive, en forme, puis sans trop de problèmes qui nous attendent.
Oui, c'est ça. Rien qui se termine par le numéro 19, c'est ce qu'on va se souhaiter pour cet été. Merci, Patrick, analyste en politique et politique publique. Est-ce que j'ai dit analyste en politique?
C'est correct.
Ah, ben c'est drôle, hein, il faut en rire. Bon, alors c'est la preuve que je suis due pour des vacances, donc, et puis bonne chance, donc, à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, donc, toutes vos fins d'après-midi vont se dérouler ici à Cube avec Patrick Derry. Merci beaucoup, bonne chance cet été.
Merci, à bientôt.
Découvrez le nouveau café érable Pacan de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 $ pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Il y a un sondage qui a été fait récemment auprès des Canadiens et en particulier auprès des Québécois pour connaître l'évaluation qu'on faisait de notre connaissance de l'Holocauste. Ben, les résultats sont pas très rassurants. Il y a vraiment encore aujourd'hui, en 2022, beaucoup, beaucoup trop de gens qui considèrent qu'ils n'en savent pas assez sur ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va en parler de tout ça et de ce qu'on peut faire pour justement améliorer notre connaissance de l'Holocauste. On va parler de tout ça avec Anne Marguet, elle est coordonnatrice à l'éducation au Musée de l'Holocauste à Montréal. Madame Marguet, bonjour.
Bonjour, Madame Durocher.
Quand vous posez-vous des questions, quand vous rencontrez des gens, quelle évaluation vous faites de la connaissance que les gens ont de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, de ce fameux Holocauste qui a fait quand même 6 millions de morts?
Au Musée de l'Holocauste Montréal, comme je suis coordonnatrice éducation, l'essentiel des personnes que je rencontre, ce sont surtout les groupes scolaires, avec les enseignants et enseignantes qui les accompagnent. Et quand nous les rencontrons, que ce soit virtuellement avec nos programmes virtuels ou au musée, moi, je suis en général très agréablement surpris des connaissances, c'est-à-dire de la préparation qu'ils ont en classe sur la définition de l'Holocauste, par exemple. Et bien sûr, notre rôle lorsqu'ils viennent au musée, c'est aussi d'apporter ces connaissances supplémentaires, d'approfondir une histoire qui est quand même très complexe. Donc, dans l'ensemble, on est toujours très enthousiaste et très agréablement surpris par déjà des éléments de définition et de connaissance qu'ils ont sur ce sujet.
Parce qu'il y a ce sondage léger donc qui a été réalisé récemment pour le compte de l'Association d'études canadiennes, le AEC, et là, on apprend qu'il y a un tiers des Québécois qui affirment, puis c'est une auto-évaluation, on a demandé aux gens, selon vous, votre propre connaissance, donc le tiers des Québécois qui disaient qu'ils avaient une connaissance insuffisante de l'Holocauste, donc c'est intéressant parce que les gens eux-mêmes considèrent qu'ils ne sont pas informés, donc excusez-moi de dire ça de cette façon-là, je veux pas rendre trivialiser l'expérience de l'Holocauste, mais il y a une soif d'en savoir plus.
Tout à fait. Alors non, je trouve que exactement ce que vous dites, et c'est dans ce sondage, ce que l'on trouve plutôt rassurant, c'est cette soif de vouloir en apprendre davantage, mieux comprendre, encore une fois, ce qu'est l'Holocauste, qui est quand même une histoire très complexe et souvent qu'on a tendance à un peu simplifier, d'où notre rôle au Musée de l'Holocauste, qui est de former toutes les personnes, de les sensibiliser sur ce sujet-là. Mais entre autres, de former aussi les enseignants-enseignants, oui, pour qu'ils se sentent aussi plus à l'aise pour pouvoir enseigner cette histoire complexe.
Alors voilà, donc la raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que j'ai reçu donc ce communiqué qui nous dit que les éducateurs canadiens sont invités à une formation au Musée de l'Holocauste Montréal. Ça va être soit en personne le 27 juin ou suivi d'une demi-journée virtuelle le 4 juillet. Bon, quelle est la bonne façon d'enseigner l'Holocauste? C'est un sujet délicat et en même temps, on veut conscientiser les gens, on veut pas non plus les traumatiser. En même temps, si on donne pas l'information et qu'on ne nomme pas les choses, on passe à côté de l'histoire.
Tout à fait. Alors, la bonne façon, déjà, notre conseil au Musée de l'Holocauste, c'est de l'aborder déjà en fonction de la sensibilité des élèves. Donc, on conseille de l'aborder à partir du troisième cycle au primaire, parce qu'avant, les élèves sont quand même jeunes pour entendre un sujet qui est difficile. Notre approche aussi au Musée de l'Holocauste, c'est de l'aborder par les expériences vécues par les survivants et survivantes de l'Holocauste, c'est-à-dire la rencontre avec des personnes pour que les élèves développent leur empathie historique, c'est-à-dire découvrent l'expérience d'une personne. Et par cette expérience, découvre encore une fois toute la complexité de ce qu'a été l'Holocauste. Notre approche aussi, c'est bien sûr de ne pas nier de ne pas taire en fait les éléments qui sont aussi difficiles. Donc de parler des centres de mise à mort, de parler des assassinats commis par les nazis. Mais il y a une manière aussi d'en parler. Et aujourd'hui, c'est ça, on ne développe plus du tout la pédagogie du choc avec des images chocs. de cadavres accumulés qui déshumanisent en plus beaucoup les populations qui ont subi l'Holocauste, donc les communautés juives, mais plutôt, encore une fois, de faire entendre des voix de personnes qui ont vécu l'Holocauste, qui ont perdu toute leur famille, mais aussi qui ont survécu, ce qui témoigne aussi de la résistance pendant cette période-là.
Tout récemment, à la télévision française, à l'émission La Grande Librairie, on avait réuni trois auteurs, trois survivants des camps de concentration qui avaient raconté leur histoire. Évidemment, comme ce sont des personnes qui sont encore vivantes, c'est des gens qui étaient dans les camps de concentration quand ils étaient jeunes, donc leur enfance ou leur adolescence dans les camps de concentration. À quel point ces témoignages-là, des gens qui écrivent des livres, des gens et ces gens-là racontaient qu'ils allaient régulièrement dans les écoles en France parler avec des jeunes. À quel point ce genre de témoignages-là, ça peut contribuer à changer les mentalités. Je m'explique. Pendant la pandémie, on a des gens qui ont comparé le fait d'être vacciné avec le ou même le passeport sanitaire avec la croix, avec l'étoile jaune. Comment on fait pour changer les mentalités, pour s'assurer qu'il n'y a pas encore des gens qui minimisent ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre?
En fait, comme vous le dites, par la rencontre avec des survivants, survivantes, ou l'écoute de témoignages enregistrés aussi, ça permet d'abord de comprendre ce qu'on appelle l'empathie historique. C'est pas de dire que les personnes puissent vivre la même chose, c'est-à-dire éviter, c'est ça, des comparaisons de périodes qui ne sont pas comparables et des contextes différents, mais de comprendre que dans le contexte dans lequel ces personnes ont vécu, comment elles ont vécu, comment elles ont résisté et comment elles ont aussi défendu leur humanité. Donc on a vraiment, pendant la période de la pandémie, on a entre autres travaillé beaucoup virtuellement avec des enseignants d'un peu partout à travers le Québec, le Canada. Et elle et il nous disaient que la rencontre avec les survivants, même virtuelle, pour les élèves, c'était quelque chose de très marquant pour bien comprendre le contexte aussi. Et c'est là où le rôle des enseignants est aussi très important, c'est de replacer ce témoignage dans le contexte pour comprendre l'idéologie qui a mis en place le COS, c'est-à-dire l'idéologie nazie, qui est une idéologie fondamentalement antisémite et raciste. Et donc, c'est là-dessus qu'on insiste. C'est pas de faire des comparaisons et des raccourcis par rapport à la situation, comme vous l'avez dit, de la pandémie, mais de bien remettre en contexte. Et c'est aussi notre rôle, c'est ça, de formation auprès des enseignants-enseignantes, de comprendre ce contexte particulier.
Oui. Cette annonce-là a été faite le 14 juin. Pourquoi le 14 juin est une date importante quand on parle de l'Holocauste?
Alors là, c'est une question piège.
D'accord. Désolée, je pensais que vous saviez... je suis vraiment désolée, c'est qu'en fait le 14 juin, c'est la première journée où on a commencé à avoir des convois de la mort, où on a fait des arrestations et on a envoyé des gens en Pologne dans les camps de concentration.
Alors voilà, c'est l'envoi en Pologne dans les camps de concentration en 1940, excusez-moi, mais c'est là aussi où voilà, les connaissances méritent d'être approfondies, parce que à ce moment-là, en 1940, pour le camp de concentration d'Auschwitz, qui est vraiment... C'est à la fois un camp de concentration, un centre de mise à mort, quelque chose de très, très complexe à Auschwitz. Mais en 1940, c'est un camp de concentration et les premières personnes qui sont envoyées, ce sont les Polonais à proximité de ce camp. Donc, juifs et non-juifs, mais pas spécifiquement des juifs. Et ensuite, dans ce camp de concentration, les premières expériences de mise à mort, ce seront contre les personnes avec des handicaps. Et progressivement, quand... les nazis mettent en place cette politique d'assassinat systématique des juifs, ce qu'ils vont appeler la solution finale. Là, les juifs vont être systématiquement envoyés, entre autres à Auschwitz, mais dans d'autres centres de mise à mort qui se développent. Donc, à Auschwitz, c'est vraiment une histoire très particulière, liée au régime nazi et liée aussi à la persécution de différents groupes de personnes par les nazis, dont les juifs, bien sûr, puisque ça deviendra quand même... à partir de 1942, le lieu de l'assassinat systématique d'environ 1 million de Juifs sur les 6 millions qui ont été assassinés pendant l'Holocauste.
Oui, c'est important de le mentionner et de faire cette remise en contexte-là. Des Juifs, évidemment, des personnes handicapées, des Roms, des Gitans, des homosexuels aussi, des prisonniers de droit commun, hein, des gens qui
étaient... aussi, tout à fait. Voilà. Des résistants en général, exactement.
Donc, voilà, des résistants.
Oui. Des millions de personnes, tout à fait. Pas seulement les communautés juives. La spécificité des communautés juives, c'est vraiment que l'idéologie antisémite était au centre du régime nazi et ça aboutit à cette volonté de faire disparaître tous les juifs d'Europe et d'Afrique du Nord. Donc il y a vraiment une systématisation de l'assassinat des juifs, mais les nazis ont persécuté de nombreux groupes et vous les avez bien cités, tout à fait.
Oui. Merci beaucoup. Le devoir de mémoire est une chose extrêmement importante et justement avec cette formation et on va pouvoir contribuer justement à un meilleur enseignement de l'histoire de l'Holocauste et des génocides en général, hein. Pas juste celui de l'Holocauste.
En fait,
oui, rapidement.
Le ministère de l'Éducation vient de publier un nouveau guide qui s'appelle Étudier les génocides et qui permet comme ça de comprendre les points communs et les différences entre différents génocides, dont l'Holocauste. C'est ce dont on va parler aussi à notre séminaire.
D'accord. Ben écoutez, merci beaucoup d'être venu nous rafraîchir la mémoire et surtout honorer ce devoir de mémoire. Ne jamais, jamais oublier, parce que bon, ces gens-là qui ont vécu les camps de concentration se font vieux et se font vieilles, et un jour, il n'y aura plus de témoins vivants de ce qui s'est passé. Donc, c'est important que leur voix continue d'être entendue au-delà de la mort. Anne Marguet, vous êtes coordonnatrice à l'éducation au Musée de l'Holocauste de Montréal, un musée que je recommande à tout le monde qui est en âge, évidemment, de comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment une expérience incontournable pour, justement, ne jamais oublier. Merci beaucoup.
Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande d'IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Une petite musique de circonstance, Money de Pink Floyd, pour nous rappeler qu'il y a des gens au Canada qui pensent que l'argent pousse dans les arbres ou que quand c'est l'argent des contribuables, ben oh wait donc, il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière. C'est le cas, en tout cas, de la gouverneure générale Mary Simon. Le National Post nous apprend que elle a dépensé près de 100 000 $ en traiteurs pour elle et ses 29 invités lors d'une tournée au Moyen-Orient de 8 jours. En fait, on sait cette information-là parce que c'est suite à une demande d'information d'un député conservateur. On va parler de tout ça, de ces folles dépenses avec Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, pour le Parti conservateur. Bonjour, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien.
Est-ce que vous avez décoléré ou pas encore décoléré quand on sait ce genre de dépenses-là?
Ça n'a même pas de bon sens. Puis en plus, vous parliez de 30 personnes, mais c'est moins que ça, parce que dans les 30, ça inclut l'équipage. Il y avait 17 personnes, finalement, qui étaient assis grassement nourris, là, nos frais, dans cet avion-là. Donc, c'est très choquant. Dans l'état où on vit actuellement avec l'inflation, le coût de la vie, on a tout le monde de la misère. On remplit l'auto, puis on fait un choix chaque fois, puis on met ça sur la carte de crédit, puis on voit des dépenses comme ça, on se dit, ben voyons donc. À un moment donné, là, je trouve que
Il y a un côté indécent, puis vous venez de parler de quand on fait le saut, quand on fait notre plein d'essence. Donc, quand on va voir dans le détail les dépenses pour ce voyage de quelques jours au Moyen-Orient, bon, il y a évidemment 100 000 de traiteurs à bord de l'avion et il y a 148 000 $ d'essence. 148 000 $ d'essence.
Oui, 148 000, c'est ça. Ça fait 250 000 au total.
Au total, voilà. Exactement. Et moi, j'ai fait imprimer l'horaire de Madame Wilson pendant son voyage là-bas. Je vais partager ça avec vous. Le vendredi 18 mars, il y a deux activités à l'horaire. OK? À 2h, elle s'en va visiter l'Université canadienne à Dubaï. Puis à 5h30, elle s'en va lire un livre pour enfants dans une maison de la sagesse. That's it, that's all. C'est juste ça qu'elle fait le 18 mars. Pourquoi on dépense 250 000 $, Monsieur Paulus, pour que Mary Simon aille lire des petites histoires aux enfants à Dubaï?
Effectivement que cette activité-là, c'est assez particulier. Il reste que, bon, admettons là, qu'on se donne un pas de recul, on dit, OK, le gouverneur général représente le chef d'État du Canada, peut avoir des représentations officielles dans le monde parce qu'on a une diplomatie à faire. On peut l'accepter que ça fait partie d'un rôle d'un pays du G7. Par contre, on revient à la dépense de l'avion. Moi, c'est la dépense de l'avion qui me tue. C'est comment on peut justifier que parce qu'on s'entend que les membres de l'équipage n'ont sûrement pas bu de l'alcool et mangé la même chose que les 17 autres passagers. Comment on peut justifier que dans un voyage qui a duré moins d'une semaine, il y a eu 3 vols, de ce que je comprends. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït. Oui. Ça revient environ à 1 800 $ par personne, par vol, pour manger et boire. Comment qu'on peut justifier ces montants-là? C'est impossible. Je veux dire, à moins d'avoir des bouteilles de champagne à 200 à 300 $, et encore, on en ajoute. C'est ça qui est absurde dans ce dossier-là. Est-ce que les gens doivent manger, prendre un petit verre de vin? Ben oui, pas de problème, là. Mais il y a une norme, il y a une limite entre, mettons, 100 $ pour manger très bien dans un avion et 1 800 $ par personne, par vol. Oui. Donc ça, c'est ça qui, au bout de la ligne, est le problème majeur. Parce que la représentation, je peux la comprendre, le travail du gouverneur général qui est en place, mais c'est pourquoi lorsqu'il y a des gens qui deviennent gouverneur général qui ne font plus, ils font abstraction des coûts, comme si on devenait des pachas, là, puis qu'on vivait en jet set, puis on se promenait à travers le monde, puis les citoyens payent, c'est pas grave, la vie est belle. C'est ça qui est dérangeant.
Ouais. Il y a nos collègues du bureau, mes collègues du bureau d'enquête, Journal de Montréal, Journal de Québec, l'année dernière, qui avaient fait un calcul, ils avaient colligé tous les chiffres. Ce que ça nous coûte être citoyen britannique, ce que ça nous coûte la monarchie, c'était pas loin de 67 millions de dollars par année. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps, Monsieur Paulus, d'abolir la monarchie ou de se débarrasser de ce poste-là d'apparat? Tu sais, Mary Simon, elle voyage, ben, elle amène avec elle son chef du protocole. Il me semble que ça date d'une autre époque, ces affaires-là?
Ben effectivement, c'est sûr que la monarchie en tant que telle, c'est assez complexe de voir comment le Canada pourrait changer, quoi que ça peut se faire. Et je crois que le jour où la reine Elisabeth va nous quitter, il y aura probablement plus de discussions à ce sujet-là.
Ah oui, vous pensez?
Oui, je pense que ça va, ce jour-là, ça va créer des changements au niveau de plusieurs personnes. Par contre, pour l'instant, effectivement, que le gouverneur général, écoutez, les gouverneurs généraux, dans les dernières années, on a souvent eu des cas d'abus, mais oui, on doit souligner, moi je veux souligner David Johnson. David Johnson, je ne sais pas si vous dites, c'est qui lui? Ben, c'est quelqu'un qui était là 7 ans, qui était honorable dans sa fonction, qui a vraiment représenté le Canada de façon vraiment superbe, sans aucun abus, sans aucune dépense de folie comme ça. Donc, il y a moyen de faire le travail de façon consciencieuse, de bien faire son travail. Et par contre, lorsqu'on voit les dépenses comme vient de se passer là, avec une gouverneure générale qui parle même pas français en plus, que ça aussi, moi, ça m'a dérangé depuis le début, ça rajoute à l'injure. Mais il reste que la fonction on a moyen d'avoir des gens qui exercent la fonction de gouverneur général en étant humbles dans leur fonction et en faisant attention, et c'est malheureusement pas ce qui s'est passé là. Et surtout, de rejeter la faute. Le bureau du gouverneur général qui rejette la faute sur les forces armées canadiennes, ça m'insulte. Comme ancien membre des Forces canadiennes, de me faire dire c'est pas les gens des Forces canadiennes qui ont décidé que ça coûterait 1 800 $ par personne pour faire des voyages. C'est surtout pas ces gens-là qui ont ces idées-là de grandeur de dire on va acheter les meilleurs champagnes, les caviars, etc. Il y a une commande qui est venue quelque part.
Oui, mais je suis très contente que vous rameniez le fait qu'elle soit unilingue anglaise, parce que justement, David Johnson, qui est l'ancien recteur aussi de l'Université McGill, qui était recteur quand moi j'étudiais là, il s'exprime parfaitement dans les deux langues, donc ça dit quelque chose quand même sur le gouvernement Trudeau qu'il ait nommé à ce poste-là quelqu'un d'unilingue anglais. Et la même personne, le même gouvernement qui a nommé aussi au Nouveau-Brunswick, la seule province bilingue au pays, un lieutenant-gouverneur général, unilingue anglais. Ça, c'est une méchante claque aux francophones. Bon, il s'est fait taper sur les doigts, il a été obligé de revenir, mais c'est une méchante claque sur la tête, sur le visage des francophones au pays.
Absolument, absolument. Surtout, le Nouveau-Brunswick est une petite province qui ont justement les deux langues officielles, puis les francophones au Nouveau-Brunswick, les Acadiens, travaillent fort à s'assurer que ça demeure, que le français demeure fort au Nouveau-Brunswick. Puis là, tu arrives comme ça avec une nomination d'une langue anglophone. Mais tu dis pourquoi? C'est le genre de décision, de toute façon, M. Trudeau, on sait depuis presque 7 ans maintenant, la plupart des décisions sont souvent insensées, mais il reste que ça, c'est des affronts à la francophonie, aux francophones que nous sommes. Puis, et le gouverneur général, on peut pas croire, nous, de notre côté, même du côté conservateur, qu'il n'y avait pas une personne au Canada, bilingue, qui pouvait faire la fonction de gouverneur général, et d'avoir choisi Mme Simon. C'est une personne qui avait des qualités professionnelles avant, mais demeure que la fonction s'impose d'avoir d'être bilingue, mais c'est pas le cas. Donc,
oui,
c'est une autre chose.
Une autre chose, mais il y a un de mes collègues au Journal de Montréal, Journal du Québec, je pense que c'est Mario Dumont qui disait avant, quand on parlait de diversité au Canada, c'était la diversité française-anglaise. On c'était important, cette inclusion-là, cette équité-là entre les deux langues. Maintenant, quand on parle de diversité, ça a à voir avec la couleur de la peau, ça a à voir avec, bon, les personnes autochtones. Il y a eu comme un changement dans le Canada multiculturel de Justin Trudeau, et la diversité linguistique n'est plus un critère. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse de Mario Dumont?
Absolument. Absolument, et j'ai vécu personnellement une rencontre du G7 où au Château-Frontenac à Québec, M. Trudeau s'adressait à des représentants des différents pays du G7 qui étaient là, des ministres, puis a dit en commençant, vous savez, le Canada, le concept des peuples fondateurs français, anglais, c'est des vieilles histoires, ça n'existe plus.
Hein?
J'étais complètement assommé. J'étais
Mais moi aussi.
Ça, c'est des vieilles choses, ça n'existe plus, oubliez ça. Il a commencé en disant ça, son discours. Donc, on voit très bien où se situe M. Trudeau par rapport à l'importance, dans le fond, des peuples fondateurs. Pour lui, il n'y en a pas. Et donc, c'est pour ça que le français, comme on sait à Vancouver, c'est la 15e langue en importance. M. Trudeau a vécu à Vancouver longtemps. Donc, pour lui, le français, c'est sa langue de quand il est né. C'est un francophone, mais l'importance au Canada, je pense que ça signifie beaucoup ces propos-là que j'ai personnellement entendu, j'étais là.
J'en reviens pas, je suis vraiment estomaquée. Ouais, ouais. J'étais estomaquée des dépenses de Mary Simon, mais je suis estomaquée que notre premier ministre ait dit ça. En même temps, il a dit qu'on était en état post-national, donc après ça, plus rien nous surprend. Monsieur Paulus, ben je vais vous souhaiter un bel été, des bonnes vacances du Parlement, et merci d'être venu commenter les dépenses de Mary Simon aujourd'hui, puis félicitations à votre collègue qui a tiré la sonnette d'alarme en demandant
Michael
à faire révéler.
Voilà.
Voilà. On le salue. On le salue parce que c'est grâce à lui qu'on a cette information-là. Pierre Paulus, qui est député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, pour le Parti conservateur.
Gardez le nez dans vos affaires avec Simon Philibert. Pour savoir et comprendre l'actualité économique qui touche votre portefeuille, à vos affaires, en balado sur l'application Cube et le site cube.ca, section radio.
IGA est fier de présenter À vos affaires. Découvrez les offres de la circulaire à IGA.net chaque semaine. IGA, vive la bouffe et les bonnes affaires.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal, Journal de Québec, une lettre très percutante qui, moi, en tout cas, m'a sensibilisée à une réalité. C'est la réalité des personnes qui sont aveugles et qui utilisent les transports en commun ou des taxis, des services de covoiturage et qui sont confrontées à des obstacles absolument incroyables. Cette lettre, elle est écrite par Catherine Houde, elle est juriste et elle est chef de la défense des droits chez INCA, Inca. Madame Houde, bonjour.
Bonjour.
Avant de se parler pour l'entrevue, on a réglé une chose. Vous me dites que c'est correct que j'utilise le mot aveugle puisque vous l'utilisez vous-même dans votre lettre. Écoutez, cette lettre-là, moi, m'a beaucoup sensibilisée à la réalité des personnes aveugles qui doivent utiliser des transports puisqu'on peut pas conduire une voiture. Ça me paraît une évidence. C'est quoi le plus gros obstacle quand on est aveugle et qu'on veut utiliser des transports autres qu'un transport privé?
Ben, je vous dirais que le plus gros obstacle dans les faits, c'est justement la méconnaissance de ces obstacles-là. Dans le sens où nous, on confronte des défis à tous les jours, hein, dans toutes les sphères de notre vie, c'est un fait, mais les gens ne réalisent pas ce que sont ces obstacles et ces défis-là. Donc, c'est très difficile par la suite, par exemple, quand on se déplace, que les gens comprennent ce qu'on vit, tout simplement.
Ouais. Bon, il y a différentes barrières. Moi, ce qui me frappe le plus, bon, quand on parle d'une entreprise privée, par exemple une compagnie de taxi ou Uber, c'est une chose. Mais quand on parle de transport public, des stations de métro, des autobus, comment se fait-il qu'on soit pas plus sensibilisé en 2022? Comment ça se fait que ce soit à ce point-là un casse-tête? C'est pas comme si ça faisait 2 ans qu'il y avait des personnes aveugles au Québec. Je veux dire, c'est très fâcheux de se rendre compte qu'il y a autant d'obstacles?
C'est un fait, mais vous savez, c'est un peu un cercle vicieux, hein, parce que le fait qu'il y ait autant d'obstacles fait en sorte que forcément les personnes aveugles sortent moins, donc qu'on les entend moins, qu'on entend moins les difficultés, et bien, étant donné que ces obstacles-là ne sont pas réglés, bien évidemment, ça fait en sorte que justement, on nous entend moins. Donc, c'est malheureusement un peu un cercle vicieux.
Ouais, non, je comprends. Mais en fait, c'est un cercle vicieux qui crée de l'isolement parce qu'à partir du moment où justement il y a moins de personnes aveugles qui circulent, nous, excusez-moi de l'expression, mais on les voit moins, donc on est nous-mêmes moins sensibilisés à cette réalité-là. Ce que j'aime de votre lettre, Madame Hood, c'est que vous nous parlez de solutions qui existent. Entre autres, mieux former le personnel, inclure des informations en braille, ajouter une assistance à la navigation. Les solutions que vous proposez me semblent assez simples. Comment se fait-il qu'elles ne soient pas implantées?
Bien, pour certaines grandes sociétés, je pense que c'est des choses qui s'en viennent. C'est un tournant qu'on va prendre dans les prochaines années. Mais c'est une bonne question. Je pense que historiquement, il y a vraiment un changement de culture à opérer dans la société quant à la vision qu'on a des personnes qui ont des limitations. Je pense que pendant longtemps, on a considéré que ces personnes-là n'étaient pas en mesure vraiment d'être incluses dans la société. Puis je pense que tranquillement, on réalise que c'est tout à fait possible. Et en fait, c'est un peu là comme l'image, c'est la société qui fait qu'on n'est pas inclus. C'est pas réellement nous et notre limitation. Donc, c'est comme une personne en fauteuil roulant qui fait face à un escalier. Je veux dire, si c'était un ascenseur, il n'y a aucun souci.
Oui, mais justement, la question se pose. Moi, je ne comprends pas comment se fait-il que quand on a créé ces stations de métro-là, comment ça se fait qu'on n'a pas mis des ascenseurs partout? Comment ça se fait qu'il y a encore des marches devant autant de commerces? Comment ça se fait qu'il y ait autant de limitations? Parce que, en plus, vous nous parlez dans votre lettre, vous donnez l'exemple. Par exemple, Vancouver, la compagnie TransLink, qui a équipé ses arrêts d'autobus d'un horaire et d'informations tactiles. Ben, pourquoi à Montréal ou, pourquoi on n'a pas ça ici?
Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est justement un enjeu d'éducation et de sensibilisation. Si les gens réalisent pas qu'on en a besoin, ben c'est pas là. C'est sûr que sans être des coûts extrêmes, il y a une question de coûts aussi, parce que quand on crée des lieux accessibles à la base, ça coûte beaucoup moins cher que quand on les modifie pour les rendre accessibles.
Bien sûr.
C'est toujours un enjeu. Donc je pense que c'est toutes des questions de ça. Mais nous, on a très hâte que ça le soit, hein, parce que comme je disais dans ma lettre, ben il n'y a pas de signalisation accessible pour nous. Donc, on va, par exemple, dans une station de métro de mémoire. On apprend le réseau de mémoire où on se fait une représentation mentale. Puis là, ce qui arrive particulièrement après la pandémie, c'est qu'après 2 ans pour prendre le métro, les gens, la mémoire, c'est une faculté qui oublie, hein. Donc,
Ah oui! J'avais pas pensé à ça, mais vous avez tout à fait raison.
Donc, voilà, c'est vraiment un enjeu auquel on fait face. Puis c'est pour ça qu'on interpelle davantage les élus et les sociétés de transport à ce moment-ci, parce qu'il y a vraiment une difficulté supplémentaire. Donc, quand on parle d'assistance à la navigation, c'est vraiment important. C'est pour, essentiellement, c'est de la signalisation accessible, donc pour dire aux gens où sont les portes, où sont les différentes directions, parce que sinon, ben on cherche dans la station, je veux dire, on finit par se trouver, puis les gens sont très gentils, mais c'est quand même difficile.
Oui. Vous soulignez dans votre lettre, encore une fois, très percutante, bon, il y a 200 000 personnes qui ont une limitation visuelle en ce moment au Québec, avec le vieillissement de la population, bien sûr, ce chiffre-là va augmenter. Qu'est-ce que vous espérez obtenir en écrivant cette lettre ouverte dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec?
En fait, on espère surtout, moi personnellement, puisque je suis une personne aveugle, mais chez INCA, un peu réveiller les élus au sujet que les personnes aveugles ont vraiment besoin qu'on se penche bon sur leur cas d'une certaine façon, et surtout dans le cas des transports, parce que c'est vraiment un enjeu. Je veux dire, une personne aveugle, si elle peut pas se déplacer de manière autonome, ben comment est-ce qu'elle peut trouver un emploi, par exemple,
bien
et
sûr.
Devenir un contribuable? Et éventuellement, dans ce cas-ci, si on devient un contribuable, ben coûter beaucoup moins cher à la société, donc.
En effet, il y a une logique qui est assez implacable. J'encourage tout le monde à aller lire votre lettre, Madame Hood, pour justement nous sensibiliser à cette réalité, puis surtout sensibiliser les décideurs, hein, c'est vraiment ça qu'on veut. Ça s'intitule Terminus Accessibilité, une lettre très bien défendue. On voit que, comme juriste, hein, vous savez comment bâtir un argument, Madame Hood. Vous êtes juriste et chef de la défense des droits chez INCA. Merci beaucoup d'être venue nous parler aujourd'hui pour nous sensibiliser à cette réalité-là.
Ben, ça fait très plaisir. Merci à vous.
Merci. Et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Roy, à la mise en onde, à la réalisation. À la recherche, il y avait, ben, comme d'habitude, hein, vous les connaissez maintenant, Charlotte Duquette, j'allais dire, vous les connaissez maintenant, puis là, je me serais trompée dans leur nom, ça aurait été assez rigolo. Donc, Charlotte Duquette, Frédéric Houle, Jean-Nicolas Gagné, tout ce monde-là qui donne un coup de main et met l'épaule à la roue à la recherche. Merci à vous d'être fidèles au poste. Et puis, on se retrouve demain pour la dernière de la saison, mais vous en faites pas, il y a plein d'excellents animateurs qui vont être avec vous pendant tout l'été à Cube Radio.
Cube Radio.